RMC. Grand Plateau, Johan Bredov.
Salut à tous, bienvenue dans Grand Plateau. Le 23 août débute le Tour de l'Avenir, une course mythique qui fête cette année sa 61e édition. Présentée comme le Tour de France Espoir, surnommée la Petite Grande Boucle, le Tour de l'Avenir a vu des noms prestigieux l'emporter depuis sa création en 1961 par Jacques Marchand, Gimondi, Zotelmec, Fignon, Indurain, Bernal ou encore évidemment Tadej Pogacar en 2018, pour ne citer que, ont remporté le classement général. Et alors que la Vuelta débutera au même moment, on n'est pas loin de penser que ce Tour d'Espagne pourrait être mis légèrement dans l'ombre de ce Tour de l'Avenir qui propose cette année un cru exceptionnel. Dernier vainqueur français en 2016, David Gaudu pourrait avoir un successeur en la personne de Paul Sexa. Le tout jeune tricolore d'à peine 18 ans connaît une première saison chez les professionnels déjà historique et s'affiche en tant que grand favori de cette épreuve. Mais attention, on n'oublie pas ses autres adversaires, le Belge Arnaud Vidar, le Norvégien Jørgen Nordhagen ou encore l'Espagnol Pablo Torres. Cette semaine dans Grand Plateau, alors que nous sommes à quelques jours du départ, on va vous présenter cette course avec un invité qui sera au plus près des jeunes Français de cette édition. François Trarieux, le directeur sportif de l'équipe de France Espoir, sera avec nous. C'est parti pour Grand Plateau. Et avant d'accueillir François Trarieux, je vous présente ceux qui vont m'accompagner à mes côtés. Pierre Cotchet est là. Salut Pierre.
Salut.
Et Maxime Martinez également. Salut Maxime.
Salut.
Voilà, on commence à être habitué. C'est la team de l'été avec Pierre et Maxime. Tiens, justement, on va vous présenter déjà cette équipe de France. Je vais vous donner les noms. Elle a été concoctée par le sélectionneur Pierre-Yves Châtelon, qui a choisi 6 coureurs. Donc Paul Sexas qui sera le leader. On a également Maxime Decomble, excellent rouleur, qui sera là également. Hugo Fabriès qui sera là. Antoine Lotte, Victor Loulergue ou encore Pierre-Henri Basset. Donc voilà les 6 coureurs pour cette équipe de France. Maxime, tu vas nous présenter le parcours, le Tour de l'Avenir qui s'élance donc samedi. Il y a 8 étapes en 7 jours de course dans les Alpes. Mais à quoi ressemble donc ce tracé, Maxime ?
En fait, c'est un parcours un peu crescendo qui sera proposé aux coureurs de ce Tour de l'Avenir. D'abord samedi, un court prologue de 3 km, mais pop là, hein, ce sera en montée à Tignes pour bien démarrer l'épreuve et définir un premier leader qui assurément grimpera bien. Les 2 étapes suivantes seront plutôt dédiées aux sprinteurs, tout en gardant un dénivelé assez important. Entre Aoste et Saint-Galmier, la plus longue étape de la course, 189 km, avec un troisième catégorie à 30 km de l'arrivée pour faire un petit peu l'élimination. Le lendemain, entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Vitry en Charolais, encore pour les sprinteurs. Les 2 étapes suivantes seront dédiées aux puncheurs et baroudeurs sur des parcours accidentés entre Saône-et-Loire et Jura, avant les 2 dernières journées consacrées aux grimpeurs. Le jeudi 28 août, l'étape Rennes reliera Saint-Gervais-Mont-Blanc et Tignes 2100 avec un départ en côte depuis Megève, le col des Saisies, le Cormet de Roseland, l'arrivée à Tignes. Le lendemain, donc on sera vendredi 29 août, les coureurs s'attaqueront au Petit Saint-Bernard en départ fictif avec une demi-étape au programme 41 km par l'Italie, le Colle San Carlo, une deuxième fois le Petit Saint-Bernard, mais cette fois-ci en course, toit du tour, avant la montée finale vers la Rosière. Enfin, l'après-midi, place au chrono scalada qu'adorent les Italiens, 10 km entre Montvalaisin et la Rosière, où sera couronné d'un maillot jaune éclatant le successeur de Gaudu, Bernal, Pogacar, Heutebrugs, Del Toro ou encore Blackmore, pour ne citer que les derniers vainqueurs.
Ils sont pas mal ces noms, donc ces derniers vainqueurs du Tour de l'Avenir. Un parcours énorme, bien montagneux, qui sera difficile comme chez les grands, avec des étapes magnifiques. Et on espère que l'équipe de France, emmenée par Paul Sexas, va briller. Et donc on est ravis d'accueillir dans le Grand Plateau le directeur sportif de cette équipe de France Espoir pour ce Tour de l'Avenir. C'est François Trarieux qui est avec nous. Bonjour François.
Ben bonjour à vous trois.
Ah oui, on est ravis de vous avoir, parce que c'est un moment important quand même, c'est peut-être une...
Je vais pas parler de cyclocross là,
parce que vous êtes sélectionneur national également du cyclocross. Ça a été une année riche pour le cyclocross, hein. ça avait lieu en France, mais il y a quelques liens, on va les faire quand même, entre le cyclocross et la route. Déjà, juste une question simple, François, comment vous vous sentez à quelques jours du départ de Tignes ?
Oh ben ça, pour l'instant je suis assez détendu. Hein. J'ai pris quelques jours de repos là. J'ai touché un peu à France de l'Avenir à la Tour du Pin il y a quelques jours. J'avais un mois de juillet assez chargé avec l'équipe de France junior. J'avais été faire le tour de l'Abitibi au Canada et après j'avais enchaîné Watersley avec les juniors femmes. Donc un petit championnat de France de l'Avenir entre les deux. Et puis là on étudie comme il faut le parcours pour bien arriver en place vendredi sur Tignes.
Oui, parce que le grand favori, il est français. Et c'est pour ça qu'on parle également de ce Tour de l'avenir. Il s'appelle Paul Sexa. Il est présenté comme le grand espoir du cyclisme français, François, mais également du cyclisme mondial. Il a un talent absolument monstrueux. On sent que c'est une édition un petit peu différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le ressentez, vous?
Bah, pour l'instant, je ne le ressens pas tellement parce qu'au final, on est un peu loin de la course. Chacun vague à ses occupations là, durant l'été. Après, forcément, ça fait parler parce que Paul, de par ce qu'il a pu montrer, notamment sur le mois de juin au Dauphiné, y a pas mal d'attentes qui commencent à se faire autour de lui. Et puis, forcément, avec une édition où on va retrouver Yarno Widard qui était passé au travers l'an dernier. Donc, ça annonce déjà un petit duel, sans oublier tous les coureurs qui vont être autour et qu'il ne faut pas négliger.
On va y revenir, évidemment, sur le duel attendu entre Yarno Widard et Paul Sexa. Pierre Cochette.
Oui, vous avez dit que vous étiez en train de regarder le parcours. Et c'est vrai, quand on y jette un œil, on se dit que c'est quand même très, très piégeux. Notamment parce qu'il y a pas mal d'étapes où on peut perdre du temps sur les échappées au début en se disant bon ben en fait à la fin, comme les grosses étapes sont à la fin, on va se dire qu'on va reprendre du temps sur les montées finales, sur le contre-la-montre en côte finale aussi. Est-ce que c'est pas piégeux? Est-ce que ça va être facile de contrôler la course pour éviter de perdre trop de temps au départ et pas se retrouver coincé en fin d'étape, en fin d'épreuve plutôt?
Ben, c'est toute la particularité d'une course comme le Tour de l'Avenir, où les coureurs aujourd'hui, notamment comme Paul, sont habitués maintenant à courir avec les oreillettes et puis sur un format plutôt World Tour. Là, on va être sur une course où justement les coureurs vont arriver avec moins de repères collectifs, parce que dans la plupart du temps, même si ce sont des sélections nationales et que certains coureurs se connaissent, ils n'ont pas l'habitude de fonctionner ensemble. Donc la cohésion dès la première étape va être importante. Et on voit, oui, forcément qu'avec les étapes notamment qui vont arriver autour de la Saône-et-Loire, ainsi de suite, que ça peut favoriser des échappées, ça peut aussi favoriser des courses de mouvement, et ça sera à nous de bien lire la course et puis de faire les bons choix pour justement, d'une part, éviter de perdre du temps, et pourquoi pas essayer d'en gagner sur nos concurrents directs, hein, qui pour le coup ont quand même de sacrées références dans la montagne. Donc même si Paul sort avec un Dauphiné solide, faut quand même pas occulter que ses adversaires se seront préparés là aussi et que le niveau quand même va être resserré. Donc l'an dernier, on a vu, ça s'est tout joué malgré tout dans les deux derniers jours. Blackmore, il gagne le général sur une échappée la veille qu'on avait provoquée dès le départ avec les Hollandais et les Britanniques. On avait réussi à piéger Torres qui était maillot jaune, et même s'il a fait une très grosse dernière montée sur l'arrivée de la Finestrée, il n'a pas réussi à reprendre tout son déboire sur Blackmore. Donc forcément qu'on sera attentif et qu'on va sûrement aussi être acteur de la course, notamment sur les premières étapes, quoi.
Et Torres qui sera d'ailleurs encore une fois présent dans cette édition 2025. Maxime Martinez.
C'est une sélection, donc les coureurs ne courent pas ensemble à l'année ensemble. Comment vous allez essayer de créer l'alchimie entre ces coureurs pour essayer d'entourer Paul Sexas? Et puis aussi, à partir de quand vous allez les rassembler? Quand est-ce que vous allez les avoir sous vos ordres en vérité dans les prochains jours?
Alors l'alchimie, elle s'est déjà mise en place, je dirais, sur les deux premières manches de la Coupe des Nations. Mon collègue Pierre Châtelon, qui est sélectionneur des Espoirs, avait concocté, on va dire, une sélection, notamment sur la course de la paix, où il y avait quasiment toute l'équipe, à part Paul Sexas et puis Antoine Lotte, qui n'était pas présent. Mais je dirais, ces coureurs-là, quand même, se connaissent. Paul a quand même un leadership naturel de par ses résultats, et puis même autour de lui, il arrive à créer, je dirais, régulièrement une osmose. Donc là-dessus, ça sera, les coureurs maintenant arrivent à un petit peu à maturité sur le plan international. Ils connaissent leurs adversaires. Ils ont pu courir sur des courses comme le Giro ou sur le Tour d'Alsace encore dernièrement. Enfin, on a plusieurs profils de coureurs qui quand même connaissent aussi bien le plateau. Donc, je dirais que là où ça va être important aussi, ça va être sur la gestion des émotions, qui est un facteur clé sur le haut niveau et en particulier à cet âge-là. Paul a pu démontrer par le passé, notamment chez les juniors, qu'il arrivait avec lui à tirer les garçons, notamment pour pouvoir générer cette cohésion. Donc j'ai pas de doute que les garçons vont se mettre au service de Paul quand il le faudra, comme Paul pourra aussi servir à d'autres pour pouvoir éventuellement aller jouer leurs cartes sur certaines étapes. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe homogène et qualitative. On a vu Antoine Lotte là qui sort d'un très beau Tour de Danemark où il a, sur une étape, Rennes, je dirais, termine troisième, pas très loin derrière Mats Pettersen. Donc, ce sont quand même des coureurs qui sont performants ces dernières semaines. et qui vont tout faire de toute façon pour essayer d'aller chercher le général. Et pour répondre à la deuxième question, les coureurs sont convoqués vendredi à Tignes, pour se mettre en place tranquillement avant d'attaquer le prologue le samedi. Donc une arrivée assez tardive malgré tout, comme toutes les autres équipes de toute façon nationales vont arriver sur les hauteurs de Tignes, quoi.
Et donc, quand on vous écoute, on comprend que Paul Sexas est vraiment le leader naturel de cette équipe. Toute l'équipe va être articulée autour de lui. Vous le connaissez bien, Paul Sexas, parce qu'il vient du cyclo-cross. Vous l'avez déjà eu sous vos ordres, François.
Oui, ben Paul, forcément, il fait partie de toutes ces jeunes générations qui pratiquent plusieurs disciplines dans les jeunes catégories. Ça fait partie de leur bagage technique. Il est passé par différents clubs qui proposaient l'activité cyclo-cross et je pense que c'est un élément important. On voit que Paul est quand même régulièrement placé à l'avant du peloton et est assez à l'aise pour pouvoir frotter. Donc ça fait partie de son bagage. Il a été champion de France junior. Hein, c'était à Camors l'an dernier, avant qu'il se blesse sur un stage avec moi sur une chute et qu'il soit obligé de rentrer plus tôt que prévu avant le championnat du monde. Donc ça avait été un petit coup dur pour l'équipe de France. Ouais, mais Paul adore le cyclo-cross de par sa formation, et après à court voire moyen terme, de toute façon il avait quelques lacunes sur le plan technique et même sur son profil physiologique pour pouvoir y performer au niveau. Donc c'est aussi pour ça que on avait échangé pas mal après sa saison de junior pour que rapidement il puisse s'orienter sur la route, se spécialiser et puis éventuellement garder un peu de cyclo-cross à long terme s'il le veut en préparation. Mais je veux dire, c'est des coureurs qui ont autant Aubin Sparfait, là, ce profil-là, je dirais, de puncher et de crossman vraiment technique, ainsi de suite, autant un garçon comme Paul, à haut niveau, il aurait eu trop de lacunes sur certains paramètres. Donc, je suis content de le retrouver. Et puis, pourquoi pas d'aller écrire une belle histoire là sur ce Tour de l'Avenir, parce que voilà, c'est toujours plaisant de pouvoir retrouver tous ces garçons qui sont brillants et qui m'ont fait vibrer particulièrement pour Paul aussi en cyclocross.
Et justement, Paul, on l'avait laissé au moment du Tour de l'Ain, puisqu'il avait dû déclarer forfait pour cause de maladie. C'était il y a 2 semaines. Comment il va ?
Oh, il va bien. Il fait sa préparation, il finalise ça comme il faut. Je veux dire, après moi, je laisse aussi un petit peu quand même les coureurs se préparer de leur côté. Hein. Paul est quand même très sollicité. on parle beaucoup de lui. Je veux dire, il y a forcément normalement tout autour de son plan de carrière. De chacun, il va de son avis. Donc là-dessus, moi, je laisse, on va dire, finaliser tout ça. J'ai croisé son entraîneur, justement, championnat de France de l'avenir. On a pu échanger quant à sa forme. J'ai confiance en lui. Et puis, on se connaît assez pour que, voilà, quand il va arriver, on va mettre ça en place. Encore une fois, c'est pas pour... Il y a forcément de l'excitation autour de l'épreuve et puis autour de l'arrivée de Paul sur cette épreuve. Mais justement, il faut arriver à trouver un petit peu quand même le juste milieu et faire en sorte que le coureur et le jeune qu'il est puisse arriver avec de la sérénité et puis respecter un petit peu son cadre de préparation.
Ouais, parce qu'il en a besoin et il faut gérer la pression aussi pour Paul Sexas, aussi pour vous finalement, parce que là on est horrible, nous les médias, mais on s'attend à une victoire de Paul Sexas sur le Tour de l'Avenir, c'est lui le grand favori. Comment on gère cette pression ? Comment vous allez gérer cette pression ?
Je vais vous dire honnêtement, après la pression, c'est celle qu'on, dans chaque événement, c'est celle qu'aussi on arrive à se donner et puis à prendre un peu de recul par rapport aux enjeux. Je veux dire, Paul est un très jeune coureur encore. Il y a beaucoup d'attentes. Voilà, beaucoup d'attentes autour de lui. Donc, je veux dire, il fait partie des coureurs sur lesquels, à chaque étape, on attendra encore plus. Donc, s'il suffisait de lever le curseur, et puis de se dire, voilà, c'est Paul, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je pense qu'il faut aussi laisser les choses se faire naturellement. C'est normal d'avoir un Français qui arrive comme ça et puis d'avoir cette motivation, d'avoir cet entrain là pour se dire, ouais, on a peut-être un Français qui va. Mais je veux dire, on le sait très bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis pas là pour avoir un discours hyper protecteur parce que de toute façon, le système et l'environnement fait que de toute façon, Paul aussi doit apprendre à gérer tout ça. Ça fait partie de toute façon à la fois. Il y a une part d'inné et puis il y a une part après aussi de formation et puis d'appréhension par rapport à tout ça. Mais je pense que le discours d'ensemble, il doit être quand même assez, assez apaisé et puis autour de lui pour que justement, là, il sera dans un cadre équipe de France. Il n'est pas avec son équipe professionnelle. Les attentes sont un peu différentes dans le sens où il ne travaille pas avec les mêmes personnes, avec les mêmes moyens. Et puis, je veux dire, là, c'est un objectif sportif. C'est un point d'étape. Mais très honnêtement, si Paul Sexas gagne pas le Tour de l'Avenir 2025, ça l'empêchera peut-être pas de gagner le Tour de France. Aujourd'hui, on a plus la preuve qu'il y a plus de vainqueurs du Tour de l'Avenir qui n'ont pas gagné le Tour de France que l'inverse. Donc, je veux dire, l'équation est pas si simple que ça. Et puis, c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une course d'une semaine. Le Tour de France, c'est 3 semaines. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que voilà, c'est un premier point d'étape important parce qu'il y a forcément l'histoire de l'épreuve et puis le plateau des jeunes coureurs qui vont être avec lui, qui vont faire que forcément ça va être un bon test. Mais ouais, il faut arriver à se dire que ça reste une course d'une semaine et puis que si un jour il doit gagner un grand tour, ça sera sur 3 semaines, donc il y aura encore d'autres paramètres qui seront à prendre en compte.
Ouais, on préfère qu'il ne gagne pas le Tour de l'Avenir et qu'il gagne un grand tour. c'est mieux dans ce sens-là. Vous parliez des adversaires. Tiens, juste un mot aussi sur cette équipe de France. On disait, elle est très forte quand même. C'est des coureurs de très haut niveau qu'on a dans cette équipe de France. Justement, Maxime, tu voulais en parler de cette équipe de France.
Oui, il y a une équipe de France, on peut le dire, assez punchy quand même. Vous l'avez dit, les autres coureurs vont avoir leur carte à jouer à un moment ou à un autre. Comment ça va se faire? On pense peut-être notamment aux 4 premières étapes, celles qui sont dédiées plutôt aux sprinter-puncher, où Pierre-Henri Basset, un Hugo Fabrice, un Antoine Lotte auront peut-être plus leur carte à jouer que Paul Sexas.
Oui, et puis j'oublie pas Victor Loulergue aussi, hein, qui n'est pas encore chez les professionnels, mais qui fait une très grosse saison chez les amateurs.
Qui est stagiaire chez Groupama depuis le 1er août, c'est ça?
Et oui, voilà, et puis qui fait une saison un petit peu à l'image de Clément Esquiardo l'an dernier, hein, qui avait gagné de très belles courses et qui, maintenant on l'a vu, hein, autour de. C'était autour de. Rappelez-moi là, qu'il a gagné l'étape l'autre jour, là, c'était sur le Luxembourg, non
On va retrouver ça.
Ouais, peu importe. Mais en gros, ça reste un profil de coureur qui va vite au sprint, qui passe bien les bosses. Donc c'est sûr que sur des profils de coureurs qui se ressemblent un peu malgré tout. Hein, donc on a plutôt des punchers. On a vu, moi j'étais présent au championnat de France Espoir. Ça a donné lieu à une très belle course. Ouais, les coureurs, notamment Pierre-Henri Basset, Antoine Lotte et puis Hugo Fabriès ont pu participer au Baby Giro, comme Maxime aussi, et étaient souvent dans les échappées. Et puis du coup, sur le fait que Paul va être très marqué dans le peloton, ça va quand même pouvoir permettre à ces coureurs-là de pouvoir éventuellement à un moment donné avoir des bons de sortie. Donc il faudra être opportuniste. Et puis là aussi, je veux dire, sur les premières étapes, on sait très bien que des Britanniques avec un Noah Hobbs vont tout faire pour que ça arrive au sprint. Et nous, on n'a pas forcément de grands sprinteurs, je dirais, de ce niveau. Donc on va quand même essayer de faire en sorte que la course nous favorise pour qu'on essaye d'aller jouer des étapes en échappée, voire en petit comité.
Et Esquiardo avait gagné sur le Tour de Wallonie.
Wallonie, voilà, c'est ça.
La dernière étape donc à Biarritz. Maxime, un petit mot aussi sur Pierre-Henri Basset que tu connais. T'as déjà vu en plus courir.
Déjà vu, oui. J'ai eu la chance l'année dernière d'être sur le Tour de Bretagne avec l'équipe CIC Une Nantes Atlantique. Il était l'année dernière dans cette équipe menée par Anthony Ravard. Cette année, il a quand même de bons résultats. Il a gagné le Tour de Rhodes. Il a fait 13e du Giro Next Gen avec 2 top 10 d'étape. Il est souvent monté, maintenant il est chez XDS Astana dans l'équipe Development, il est souvent monté dans l'équipe A. Et lors de cette étape du Tour de Bretagne, où j'ai eu la chance pour un reportage d'être dans la voiture de directeur sportif, c'est une étape qui arrivait à Guérande. Il était dans un petit groupe qui s'est joué la victoire. Il a fini 11e de cette étape qui a été remportée par un certain Jakob Söderqvist, qu'il va falloir retenir, ouais. Parce qu'il est chez Lidl, il commence à pointer le bout de son nez. C'est un groupe qui joue la 4e place. Il n'a pas forcément une énorme pointe de vitesse, il jouait la 4e place, il a terminé 11e, mais il avait fait quand même 7e du général du Tour de Bretagne. Donc, peut-être quelqu'un qui va pouvoir aussi en montagne aider Paul Sexas.
Oui, Pierre-Henri, on l'a vu, hein, notamment sur Baby Giro, a été quand même assez solide dans le final de certaines étapes, même s'il n'était pas au niveau des Dornagen ou autres coureurs qui ont pu jouer le général. Mais c'est un coureur qui est assez complet, que je connais bien aussi, parce que je l'avais eu en cyclocross, notamment en équipe de France junior. Donc ça reste un coureur qui sait se placer, qui sait frotter et qui pourra de toute façon accompagner Paul, je pense, à un moment comme peut-être un peu Hugo Fabriès et Victor Loulière qui avait fait le Tour de l'Avenir l'an dernier, Victor avec la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. Il habite du côté de Chambéry, donc c'est un coureur qui monte régulièrement aussi des cols. Donc je pense quand même que voilà, sur le papier, on a une très belle équipe, on a de quoi faire. Après, ça sera à moi de driver aussi ces coureurs-là et puis de pouvoir faire le nécessaire pour qu'on puisse poser nos cartes quand il faudra. Et puis, ouais, en tout cas, moi, ça me, ça me motive bien de pouvoir réaliser ce beau projet et puis voilà de que ces garçons puissent s'épanouir là sur une semaine qui pour certains sera sûrement leur dernière course chez les Espoirs, donc autant que ça reste un beau souvenir.
Pierre.
Oui, c'était quand même un plateau exceptionnel pour ce Tour de l'avenir, parce qu'il y a des garçons qui ont déjà un peu confirmé à ce niveau-là. Il y a des comme Torres qu'on a déjà vu l'année dernière, des garçons qui sont très forts cette année aussi avec Nordhagen et Jarno Vidar. Le sélectionneur belge vient nous dire que Jarno Vidar contre Paul Sexa, c'était Pogacar contre Vingegaard. Alors, un, est-ce que vous êtes d'accord avec l'image? Et deux, qui est Vingegaard et qui est Pogacar?
Alors moi, pour vous dire, j'ai bien lu son interview à Serge Poès. C'est bien lui hein, qui a fait
Ouais.
sa déclaration. Et oui, après, ouais, c'est une image qu'il a pu avoir. Moi, je suis pas forcément là-dessus parce que de toute façon, ça reste des coureurs qui sont quand même un peu, ne serait-ce que dans le gabarit et dans la manière de courir, qui sont quand même un peu opposés. Pogacar a un style très agressif, qui est capable d'attaquer à n'importe quel moment. Vingegaard, il est habitué à faire des gros trains avec la Visma et puis de voilà de profiter un petit peu du surnombre qu'ils peuvent avoir. Et ça, je dirais que c'est pas forcément ce qu'on va retrouver sur le Tour de l'avenir. L'équipe de Jarno Widar est pas peut-être pas aussi forte que certaines années. Donc, je dirais que c'est la comparaison pour moi est peut-être un peu différente. Et il faut quand même pas oublier que celui qui a gagné Baby Giro cette année, il n'est pas belge, il n'est pas français, il est slovène.
Oui.
Il s'appelle Hamzel. Et je me méfie plus de lui aussi que de Widar, qui forcément stigmatise un petit peu les attentes parce qu'on sait très bien qu'il fait partie aussi de cette jeune génération de coureurs belges qu'on attend. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a d'autres équipes qui seront présentes au départ et qu'on peut pas résumer à la course à deux coureurs parce que justement le plateau est quand même relativement important. Nordhagen, encore quelques des fois lacunes, je dirais sur le plan tactique où je l'ai vu faire par moment, il est capable d'attaquer un peu sur les dernières ascensions et puis de se faire un peu contrer. Donc ça reste des coureurs qui de toute façon sont amenés à faire des erreurs parce qu'ils sont encore jeunes et que ils ont pas toujours, on peut pas leur demander de courir comme des coureurs qui ont 10 ans de plus qu'eux. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une course comme ça en termes de spectacle, c'est que des fois les coureurs vont tenter des coups et ça passe et parfois ça explose. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté du Tour de l'avenir et puis d'un plateau espoir, c'est qu'on est capable de voir voilà, sur certaines étapes des tentatives qui vont être mises en place et puis qu'on verra peut-être pas forcément dans des grosses épreuves World Tour qui sont parfois plus cadenassées. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît en tout cas sur ce format de course et qui fait que je pense que les coureurs sont impatients d'en découdre parce qu'ils savent très bien que la bataille va être très rude. Hein. Je veux dire, que ce soit Paul ou Jarno, je pense pas qu'ils prennent le départ de la course en étant rassurés de terminer premier, deuxième de la course. Donc ils savent très bien que tous les coureurs se préparent pour cette épreuve-là. Derrière, il restera plus pour certains que le championnat du monde à Kigali, éventuellement les championnats d'Europe, mais ça reste quasiment leur objectif de la saison. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que le niveau va être très resserré et que en tout cas, il faudra qu'on ait un grand poil aussi pour aller s'imposer au général, quoi qu'il arrive.
Et Serge Povels, pour répondre un petit peu à la question de Pierre, pour le sélectionneur belge, c'est Pogacar, c'est Paul Sexa, parce qu'il est légèrement plus fort, en tout cas c'est ce qu'il dit dans l'interview, hein, que Jarno Vidar est peut-être un petit peu moins fort que le français, c'est ce qu'on souhaite, on verra ça donc, mais ça rajoute un petit peu de pression aussi à Paul, hein, qui doit absolument l'emporter, mais vous parliez des autres adversaires, finalement est-ce que c'est pas de Pablo Torres dont il faut le plus se méfier, coureur du UAE, on sait que UAE se trompe rarement dans le recrutement des jeunes talents, Pablo Torres a déjà couru avec les grands, si on peut le dire comme ça, il fait deuxième l'année dernière, vous en parliez, François, est-ce que c'est pas lui finalement le principal adversaire de Paul?
Oui, après l'équipe espagnole a quand même trois cartes avec Pericas, Marti et puis Torres, on va dire un peu comme leader, même si sur les classements depuis le début de la saison, il n'a pas non plus été sur un niveau exceptionnel. C'est aussi toujours là qu'il faut se méfier un petit peu je dirais, des axes de progression et puis aussi des paliers que les coureurs peuvent passer. Hein, parce que Torres, l'an dernier, quand on l'a vu gagner, notamment à la Finestre, et qu'il a mis presque 4 minutes au deuxième, on s'est dit, ben ça y est, l'année prochaine, en World Tour, il va tout écraser. Et puis pour l'instant, c'est pas non plus, je veux dire, le coureur qui nous épate le plus. Donc avec tout le respect que j'ai pour tous ces jeunes coureurs, il faut, même nous, par moment, il faut qu'on arrive à garder un peu les pieds sur terre en se disant qu'ils ont tous des progressions différentes. Et pour le coup, Torres, il fait forcément partie des favoris. Mais c'est aussi ça qui fait que Paul, par exemple, on l'a plus vu sur une course depuis le mois de juin. Nordhagen, il termine 13e du Tour de l'Ain. Est-ce qu'il sortait de stage de préparation d'altitude qu'il a pu faire au mois de juillet, qui fait qu'il était peut-être pas forcément encore au top de sa forme? Donc, chacun un petit peu est dans l'expectative de pouvoir se jauger, s'évaluer, et c'est ce qui va faire que, notamment sur les premières étapes, on peut avoir des surprises parce que certains coureurs vont peut-être à la fois arriver à faire des bons coups, comme d'autres vont peut-être passer complètement au travers. Donc, ça fait partie des courses par étapes, et en tout cas sur ce format de course où justement ces quatre premières étapes qui peuvent apparaître sur le papier comme étant presque faciles peuvent peut-être être un calvaire pour certains s'ils entament le Tour de l'Avenir un peu moins bien ou s'ils sont piégés et que leur équipe n'est pas capable de pouvoir redresser la barre. Hein. Je veux dire, c'est il y a que six coureurs par équipe. Imaginons qu'il y ait une échappée avec trois ou quatre équipes de classement de coureurs qui défendent leur chance pour le général. On peut vite arriver à piéger ou à se faire piéger. Donc c'est pour ça que voilà, il faudra être vigilant, bien lire la course et puis et en tout cas tous ces jeunes-là, je pense que encore une fois le Tour de l'Avenir, ça reste le sommet de leur saison et pour moi en tout cas en tant que directeur sportif, je me méfierais forcément des 5-6 coureurs qu'on a pu citer depuis le début de la prise d'antenne.
Et justement, c'est une course qui est forcément ces catégories d'âge ne sont pas toujours bien suivies par le grand public ou les gens qui vont regarder la course. C'est une course U23 pour la première fois. Quel est le nom d'un coureur, pas forcément français, mais que vous auriez envie de signaler au grand public, dire celui-là, suivez-le, ça peut être pas mal sur ce Tour de l'Avenir?
Bah, très clairement, on a Luke Tuckwell là, qui est chez Red Bull Bourac, U23, qui termine deuxième du Baby Giro, hein, qui marchait aussi très fort, c'est un coureur australien. Et puis Novak, qui est tchèque. Donc c'est peut-être ces deux coureurs-là qui sont un peu outsiders, qu'on n'a pas tendance à trop citer, mais qui seront de toute façon parmi les noms qu'on va retrouver à la fin de la semaine, je dirais quasiment à coup sûr, quoi. Donc ils ont pu faire des coups, notamment sur le Baby Giro, qui reste un petit peu l'épreuve qu'on assimile maintenant sur la catégorie 23 en termes de difficulté, de plateau et puis de durée de course. Donc est-ce que la vérité après du mois de juin sera celle du mois d'août? Là, encore une fois, c'est difficile à dire, mais ça reste quand même des coureurs qui, de toute façon, se préparent pour cette épreuve depuis le début de l'année. Et puis, je pense qu'on va les retrouver, ces deux-là, au contact de nos différents favoris qu'on a pu évoquer.
Et donc, tous ces noms-là, Ormsel, Nordhagen, Torres, tous les noms qu'on a évoqués, sera à retrouver dans des portraits de la semaine qu'on fera toute la saison prochaine, et notamment à Yarno Vidar, hein, le Belge, ce sera le portrait de la semaine qui sortira samedi. Juste un mot, tiens, avec vous pour conclure, François Trarieux, le Tour de l'Avenir, c'est pas que chez les hommes, parce que ça sera la troisième édition pour les femmes, et là aussi, on a une belle sélection française avec Glantine Arrière-Giraud qui est là, Solène Muller, Clémence Latimier, Célia Géry, Julie Bégaud, et Mario Bunel qui remet son titre en jeu. Un petit mot avec vous. Je sais que vous n'êtes pas le sélectionneur, hein, c'est Émilien Brouet qui a concocté cette équipe, François. Mais là aussi, chez les femmes, on sent une émulation aussi chez les jeunes françaises. Et on a de l'espoir également pour l'avenir du cyclisme féminin.
Oui, c'est sûr que là, pour le coup, on a quand même pu voir en particulier sur le dernier Tour de France féminin que le cyclisme français se portait quand même très bien, au-delà de Pauline. Et là, on a toute une jeune génération qui a fait ses gammes dans les catégories juniors avec des titres, hein, que ce soit Julie qui avait été championne du monde à Glasgow sur la route, Célia qui a été championne du monde de cyclocross, bon, Marion qui a gagné le Tour de l'Avenir, enfin je veux dire, Eglantine, elle avait été championne d'Europe, enfin je veux dire, ça reste une génération, je dirais presque dorée, et qui s'annonce comme la génération montante, une très belle équipe sur le papier, je pense peut-être même l'équipe favorite. Et puis, et j'espère qu'en tout cas, ça serait beau de pouvoir retrouver un Français et une Française à la fin de la semaine sur le podium, sur la première marche du Tour de l'Avenir. Ça voudrait dire qu'on a bien bossé avec mon collègue Émilien Brouet et puis qu'on pourra aller manger une glace après l'arrivée pour fêter ça, quoi.
Vous avez entendu comment l'objectif a changé de podium à première place? Ah oui, forcément, quand on a Marion Bunel et Paul Sexa qui seront là. Maxime.
En tout cas, c'est que des noms qu'on a entendus soit pendant la saison, soit même pendant le Tour de France. Et au niveau du parcours, c'est à peu près le même que les hommes. Il y a juste une journée de repos au moment de l'étape reine.
Exactement.
Et sinon, les distances sont légèrement plus courtes, mais le parcours est à peu de choses près le même entre les hommes et les femmes.
Et ce sera les mêmes jours d'ailleurs du 23 au 29 août, donc les femmes qui partiront
en prélude
et les hommes qui concluront la journée. Donc voilà pour ce tour de l'avenir du 23 au 29 août. Merci François Trarieux d'avoir été avec nous, directeur sportif de cette équipe de France Espoir. On vous souhaite tout le meilleur du monde, évidemment, pour ce tour de l'avenir avec Paul et toute cette belle équipe de France, parce que au-delà de cette équipe de France, d'ailleurs François, même la génération française est dorée, la jeune génération française. On voit les Paul Magnier, etc. J'en passe. Léo Bisiot, que vous connaissez très bien.
On parlait d'Aubin aussi tout à l'heure.
Ouais, Aubin Sparfel qui est exceptionnel. C'est vrai que cette jeune génération, elle est dingue. François, qu'est-ce qui se passe?
Ben, je peux dire que on peut remercier les parents de ces jeunes-là qui ont pu bien, entre guillemets, les faire bosser dans les catégories jeunes et puis les amener avec leurs éducateurs de club à maturité. Mais non, je dirais qu'on a vraiment de la chance de pouvoir, sur les différentes disciplines, hein. Je veux dire, on a, au sein de la fédération, on a quand même un réservoir, un vivier. Alors, c'est pas le moment de faire cocorico, hein, parce qu'on peut parfois avoir des retours de bâton assez méchants, mais pour le coup, on a quand même là, sur le papier, et dans les résultats à l'heure actuelle, une très belle génération. Moi, voilà, après le tour de l'avenir, je vais rapidement glisser sur le cyclocross et c'est vrai que je vais pouvoir retrouver des garçons comme Aubin, le Soren Bruyère-Jumart qui termine vice-champion du monde l'hiver dernier. Donc c'est vrai que c'est toute cette jeune génération qui monte et qui aussi quelque part profite du fait que tous ces coureurs gagnent des titres au niveau international et puis ça débloque un petit peu des verrous au niveau psychologique et qui font qu'après ces coureurs-là, quand ils abordent leurs objectifs, quand ils arrivent sur des gros événements, se disent je suis pas tout seul, je peux y aller, même si je me loupe il y aura quelqu'un d'autre à ma place, ou ça fait partie aussi je pense d'une émulation et c'est parfois ça le plus difficile à créer et à stabiliser, hein. On le sait, dans le haut niveau il y a une dynamique, il y a des leaders, on le voit dans d'autres disciplines comme la natation à l'heure actuelle avec un Léon Marchand qui porte aussi cette discipline là au plus haut niveau, donc parfois le plus dur c'est d'allumer la mèche et puis après l'entretenir et puis après ça passe forcément par des résultats. Mais pour le coup, que ça soit en tout cas sur la route, le cyclocross pour ce qui me concerne un peu plus, on a quand même une très belle génération. Et j'espère qu'on sera amené à la retrouver au plus haut niveau sur les 3, 4, 5 prochaines années. Ça voudra dire qu'on aura bien fait notre travail et puis qu'ils pourront s'épanouir dans leurs équipes respectives au niveau professionnel. Donc, et comme ça, vous pourrez faire des podcasts régulièrement pour pouvoir parler de tous ces jeunes garçons et jeunes filles qui j'espère vont faire retentir la Marseillaise.
Ouais, on l'espère. On en a un peu marre des podcasts sur Pogacar qui gagnent tout. Il nous faut des Français.
C'est pour ça d'ailleurs que je ne les écoute pas. Mais
merci François Trarieux d'avoir été notre invité dans Grand Plateau. Écoutez maintenant Grand Plateau quand même.
Voilà. On fera un petit podcast cyclocross le temps voulu. Et puis,
mais bien sûr.
Ça sera avec plaisir que je reviendrai à vos côtés. En tout cas, merci pour l'invitation et j'espère qu'on pourra livrer une belle semaine sur ce prochain Tour de l'avenir.
Eh bien, réservez votre mois de décembre. On va avoir besoin de vous pour aller tout de bois. Et le cyclocross. Merci François d'avoir été avec nous. Merci Pierre. Merci Maxime.
Merci.
Évidemment, on vous retrouve très vite dans Grand Plateau. La semaine prochaine, on parlera de la Vuelta. Bah oui, parce qu'il y a le Tour de l'avenir, mais il y a la Vuelta aussi. Les grands qui vont disputer le dernier grand tour de l'année. Et nous, on se retrouve donc tous les lundis pour Grand Plateau. N'oubliez pas le portrait de la semaine également, samedi, dédié à Yarno Vidarle, un des principaux concurrents de Paul Sexa pour ce tour de l'avenir. Abonnez-vous, mettez une bonne note et nous on se retrouve très vite. À bientôt.